3001. Chapitre 60. Minuit sur l'esplanade. Le célèbre édifice qui dominait dans sa splendeur solitaire la forêt du centre de Manhattan avait peu changé en 1000 ans. Il appartenait à l'histoire et avait été religieusement conservé. Comme tous les monuments historiques, il était revêtu depuis longtemps d'une micro-pellicule de diamant destinée à l'immuniser contre les ravages du temps. Quiconque ayant assisté à la première assemblée générale n'aurait pu se douter que plus de 9 siècles s'étaient écoulés. On aurait été en revanche intrigué, sans doute, par la dalle noire unie dressée sur l'esplanade, imitant presque la forme du bâtiment de l'ONU. Si l'on avait, comme tout le monde, allongé la main pour la toucher, on aurait été surpris par le glissement bizarre des doigts sur la surface noire. Mais on aurait été encore plus surpris, et même totalement bouleversé, par la transformation des cieux. Les derniers touristes étaient partis depuis 1 heure et l'esplanade était complètement déserte. Le ciel était sans nuages et quelques-unes des étoiles les plus brillantes demeuraient visibles. Toutes les autres avaient été éteintes par le minuscule soleil qui brillait à minuit. La lumière de Lucifer n'étincelait pas seulement sur le verre noir de l'antique édifice, mais aussi sur l'étroit arc-en-ciel argenté enjambant le ciel au sud. D'autres lumières allaient et venaient autour de lui, très lentement, tandis que le commerce du système solaire faisait la navette entre tous les mondes de ces deux soleils. Et si l'on regardait très attentivement, il était tout juste possible de distinguer le mince fil de la tour de Panama, un des 6 cordons ombilicaux en diamant, reliant à la Terre ses enfants dispersés, s'élevant à 26 000 km au-dessus de l'équateur pour rejoindre l'anneau autour du monde. Soudain, presque aussi rapidement qu'il était né, Lucifer se mit à pâlir. La nuit que les hommes n'avaient pas connue depuis 30 générations envahit de nouveau le ciel. Les étoiles bannies reparurent. Et pour la seconde fois en 4 millions d'années, le monolithe se réveilla. Remerciements. Je remercie tout particulièrement Larry Sessions et Jerry Snyder de m'avoir fourni les positions de la comète de Halley lors de sa prochaine apparition. Ils ne sont responsables d'aucune des perturbations orbitales que j'ai introduites. J'ai une dette spéciale de reconnaissance envers Melvin Ross du Laboratoire national Lawrence Livermore, non seulement pour son brillant concept des planètes à noyaux de diamants, mais aussi pour m'avoir transmis des copies de son article historique, je l'espère, sur ce sujet. Je suis sûr que mon vieil ami le professeur Luis Alvarez s'amusera de mon extrapolation démente de ses recherches et je le remercie de son aide considérable et de son inspiration durant les 35 dernières années. Mes vifs remerciements à Gentry Lee de la NASA, mon co-auteur de Cradle, pour avoir transporté à la main, de Los Angeles à Colombo, la Kay Pro 2000 portative qui m'a permis d'écrire cet ouvrage dans les coins les plus insolites et surtout les plus isolés. Les chapitres 5, 58 et 59 sont basés sur du matériel adapté de mon livre 2010 Odyssée 2. Un auteur a bien le droit de se plagier lui-même, non ? J'espère enfin que le cosmonaute Alexei Leonov m'a aujourd'hui pardonné de l'avoir associé au professeur Andrei Sakharov, encore exilé à Gorki quand 2010 leur a été dédié à tous deux conjointement. Et j'exprime mes très sincères regrets à mon aimable hôte et éditeur de Moscou, Vassili Jartchenko, pour lui avoir causé de graves ennuis en utilisant les noms de divers dissidents dont la plupart, je suis heureux de le dire, ne sont plus emprisonnés. Un jour, j'espère, les abonnés de Technica Molodeji pourront lire les passages de 2010 qui ont si mystérieusement été censurés. Arthur C. Clarke, Colombo, Sri Lanka, 25 avril 1987.